Un disciple sur le chemin présente Le miroir de l'Uroboros, podcast ésotérique dédié à la spiritualité, à l'étude de l'occultisme et à la métaphysique théosophique. miroir.uroboros.net. Nous allons commencer aujourd'hui un premier cycle de réflexion. Disons pour présenter un certain nombre de thèmes, de sujets qui sont des fondamentaux en ésotérisme et qu'il me semble important de souligner et d'expliquer. Le problème essentiel qui se pose actuellement sur Internet, c'est la raison pour laquelle j'interviens ici, c'est que un certain nombre de thèmes ne sont pas abordés, me semble-t-il, de la bonne façon. Et si tant est qu'il puisse y avoir une vérité unique qu'on pourrait défendre, il y a au moins un certain nombre de connaissances de base qui doivent être expliquées et qui peuvent être appréhendées par tout le monde. Or, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, alors qu'aujourd'hui, une grande partie d'écrits d'initiés, de grands initiés, de maîtres de sagesse sont disponibles sur Internet d'une façon ou d'une autre, que cela soit les écrits de Madame Blavatsky, que cela soit les écrits d'initiés comme Annie Besant ou Monsieur Leadbeater, enfin Monseigneur Leadbeater, que cela soit des écrits comme des écrits de la Kabbale, que cela soit des écrits de l'alchimie, que cela soit les écrits bien sûr du maître tibétain et d'Alice Anne Bailey, que cela soit ceux de l'Agni Yoga, d'Elena Roerich, bref. Quels que soient les différents initiés, les différentes traditions, que cela soit théosophique ou bien martiniste, kabbaliste, etc., on se retrouve confronté à un problème qui vient très certainement du mouvement New Age en réalité, quoi qu'il s'agisse évidemment d'un mouvement intéressant, pose un certain nombre de questions à l'ésotériste, parce qu'il a tendance à simplifier un certain nombre de choses et par conséquent à dire beaucoup de bêtises et beaucoup de sottises sur tout un ensemble de sujets. Et c'est la raison donc pour laquelle je ressens en tout cas le besoin de préciser un certain nombre de réflexions et de termes qui sont galvaudés aujourd'hui sur tout un ensemble de sites et de forums et qu'il me semble important d'analyser, d'expliquer, en tout cas de proposer une alternative par rapport aux explications classiques. Aujourd'hui, le premier thème que nous allons aborder est celui d'un plan que l'on connaît généralement beaucoup, dont on parle beaucoup, et dont finalement, on ne sait pas grand-chose habituellement. Il s'agit du plan dit astral. Le plan astral. Le plan astral est un plan de matière subtile qui se situe, si ce n'est au-dessus, du moins à un niveau vibratoire plus important, plus élevé, que le plan physique. Il faut savoir, effectivement, que selon les ésotéristes, selon les occultistes, l'humanité, mais l'univers dans son ensemble, existe en réalité sur plusieurs plans de matière. Le plan physique, bien sûr, que nous connaissons, dont une partie est un peu plus méconnue, on l'appelle la partie éthérique du plan physique, puis le plan astral, dont on parlera aujourd'hui, et d'autres plans également, comme le plan mental, le plan bouddhique, le plan atmique, le plan monadique, etc., etc. Le plan astral pourrait être compris comme un plan de matière interpénétrant les autres plans. On pourrait imaginer que, nous avons un seau que nous voulons remplir de galets. Nous prenons des galets, nous remplissons le seau jusqu'en haut, et une fois que nous avons rempli le seau, nous ne pouvons plus ajouter de galets. Il n'y a plus de place, cela ferait déborder le seau. On serait alors tenté de dire « ce seau est plein ». Pourtant, si l'on prend du sable, et que l'on verse du sable entre les interstices laissés par les galets, qui sont posés les uns à côté des autres, il sera possible de remplir le seau avec du sable. Et une fois que le sable aura totalement recouvert les galets et que le seau sera à nouveau rempli par le sable, on sera tenté de dire que le seau est plein. Sauf que, il suffira de prendre de l'eau, de la verser dans le seau rempli de galets et de sable, pour se rendre compte que l'eau circule entre les interstices laissés par les grains de sable. Eh bien, quelque part, ces différentes formes de matière sont en réalité des images pour comprendre comment le plan physique, le plan astral et d'autres plans comme le plan mental ou autres peuvent s'interpénétrer les uns dans les autres. Quelque part, les galets sont le plan physique, le sable le plan astral et l'eau pourrait être le plan mental, par exemple. Le plan astral est un plan qui est très important, évidemment, parce que c'est le plan des émotions. C'est le plan du ressenti. C'est un plan sur lequel l'homme possède un corps, le corps dit astral, précisément. On l'appelle ainsi ce plan, et ce corps d'ailleurs, parce que c'est un plan dans lequel se situe beaucoup de lumière très, justement par définition, lumineuse, mais très étincelant, comme les étoiles, d'où le mot astral. C'est quelque chose où les lumières sont presque aveuglantes quelque part. Et je ne prends pas cette idée à la légère, et même je la souligne à dessein, parce que, précisément, le plan astral a tendance à égarer les sens. En fait, non pas les sens L'E2SENCE, quoique, mais plutôt les sens au sens précisément des cinq sens. Pourquoi ? Parce que, justement, cette tendance à avoir des lumières, des couleurs, des sons, des choses qui sont particulièrement séduisantes, eh bien, est une sorte d'obstacle à franchir pour celui qui s'engage dans la spiritualité, parce que c'est un plan sur lequel on réalise une forme d'apprentissage de l'existence. Et ce plan est le plan du tentateur, le plan de la tentation, le plan des désirs aussi, tous les désirs, que cela soit les désirs sexuels, certes, mais tous les autres. Et quelque part, eh bien, ce plan astral est un cheval qu'il faut apprendre, je dirais, à dompter. Et ce faisant, eh bien, parvenir à canaliser toute sa force, toute son énergie, pour s'en servir à des desseins plus spirituels. L'un des problèmes rencontrés par les gens qui commencent la méditation, ou qui se retrouvent confrontés à, je vais dire, une certaine sensibilité à la spiritualité, et c'est qu'ils vont être à un moment donné de leur cheminement confrontés à de la sensibilité vis-à-vis de certaines énergies. Ils vont commencer à ressentir des énergies, de la même façon qu'ils vont, on va dire, commencer à percevoir des choses en méditation, en rêve également, des choses très colorées, des choses très sonores, des choses très lumineuses, des images particulières leur seront renvoyées. Bref, c'est le moment où le disciple qui s'engage en spiritualité se retrouve en réalité confronté à une épreuve, l'épreuve de l'astral. Et on a tendance à oublier cet aspect-là. C'est ce qui fait que, très souvent, un certain nombre de gens pensent être arrivés à un point d'illumination totale parce qu'ils voient des choses qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas visibles sur le plan physique habituellement. Le problème, c'est que ce n'est pas nécessairement parce que, eh bien, quelque chose est visible ou existe sur le plan astral que nécessairement cette chose est vraie. On a tendance à oublier que le plan astral n'est qu'un plan de miroir. C'est une eau trouble qui est particulièrement agitée et qui n'est que le reflet de la lumière qui se trouve au-dessus. Que cela soit la lumière du plan mental, notamment du plan mental supérieur, mais aussi celle du plan bouddhique ou du plan atmique, les plans qui sont encore au-delà. Eh bien, le plan astral est ce miroir, et c'est un miroir difforme, un miroir exagéré et exagérant également la forme de tout ce qui se manifeste devant lui. C'est la raison pour laquelle il faut être très prudent lorsqu'on se retrouve confronté au plan astral, lorsqu'on se retrouve à méditer et à percevoir des choses très colorées, très merveilleuses, très lumineuses, très séduisantes. En réalité, ce sont là des illusions, des déformations de la réalité, ce qui veut dire que quelque part il y a du vrai derrière ces illusions, mais qu'il faut comprendre quel est ce vrai, quelle est la teneur de ce vrai, et ne pas se contenter de percevoir et de se laisser aller, justement, dans une perspective très mystique, au ressenti de ces émotions du plan astral. le chemin continue au-delà du plan astral. Il n'est que le premier barreau d'une échelle, un barreau qu'il faut franchir, et, ce faisant, si l'on souhaite continuer en spiritualité, ce barreau pourra être franchi par l'intermédiaire du discernement, du juste discernement, c'est-à-dire, principalement, par l'utilisation du mental de manière adéquate et de manière maîtrisée. Ce qu'il faut comprendre par cette idée-là, c'est qu'il existe des plans auxquels nous n'avons pas encore accès quand on fait partie de l'humanité ordinaire, j'ai envie de dire. Mais en réalité, le but de la spiritualité et de l'ésotérisme est de parvenir à accéder à ces plans et d'en comprendre toute la teneur. Le plan astral fait donc partie du cheminement. Simplement, il convient de ne pas s'arrêter. Ce n'est que le premier plateau de la grande montagne qu'il doit être gravi jusqu'à la lumière spirituelle centrale. C'est le premier étage, le premier barreau de l'échelle. Et forcément, il s'y trouve un obstacle, qui est une épreuve, parce que la spiritualité est faite d'épreuves, les unes qui se succèdent aux autres. Et le plan astral n'échappe donc pas à cette logique-là. Comprendre la nature illusoire de l'astral, comprendre qu'il n'est qu'un reflet déformé et exagéré de la réalité, c'est apprendre à cheminer davantage, à faire preuve de discernement. Et c'est la raison pour laquelle il faut insister sur ce point. Ce n'est pas parce qu'une chose de nature surnaturelle, ou en tout cas ce qui semble surnaturel, ou en tout cas magique, existe, que nécessairement cela manifeste une forme ni de vérité, ni même de spiritualité. Nous reviendrons un jour sur cette notion-là, entre la différence entre le surnaturel et le spirituel, car il me semble important d'appuyer sur ce point. Ce sera tout pour aujourd'hui.